première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Harry Mandelbaum.
Alors on dit, mais on le dit un peu trop vite et un peu trop facilement, que c'est moi qui ai pris l'initiative. Bon, je veux bien. Effectivement, j'ai pris l'initiative de poser la question tant à Marianne qu'à Sarah, quand elle était là, bien sûr. Et puis j'ai fait cette proposition à Anne Lenoir et à Ariane Skoda.
Au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, jusqu'au 4 février... L'intime et le monde. Marianne Bernot, Sarah Kalinsky, Harry Mandelbaum.
Nous sommes trois artistes plasticiens, comme on dit, juifs, nés en Belgique et ayant échappé à la Shoah, à l'extermination. C'est ce qui semble nous rassembler. Ça, c'est la manière, c'est un peu horrible ce que je veux dire, la manière la plus étroite. L'autre manière qui nous ressemble, c'est que j'aime l'œuvre de Marianne et j'aime l'œuvre de Sarah. Et j'ai sans doute mis plus de temps à rentrer dans l'œuvre de Marianne que dans celle de Sarah. Mais voilà, je suis de plein pied dans les deux.
Gérard Préchoff, c'est Harry Mandelbaum qui m'a dit que c'est vous qui avez trouvé le titre de cette exposition.
Gérard Préchoff a trouvé ce titre.
Ce titre, c'est vraiment... Mais comme souvent, c'est la question des titres. C'est toujours très compliqué, c'est jamais bon. Celui-ci, on l'a trouvé, enfin, on l'a d'abord apprécié, et puis on s'est dit, mais c'est quand même pas un peu balourd, un peu... Est-ce qu'on n'induit pas un peu trop de sens en l'intime et le monde? Bon, c'est tellement... Il y a presque de l'évidence quand on connaît les œuvres ou qu'on les voit. Et donc, à partir de là, on a cherché d'autres titres qui frisaient le calembour, ou du genre, je peux raconter une anecdote... Comme vous savez sans doute, pour aller chez Harry, la sonnette ne fonctionne pas à sa porte cochère. Et donc, il faut envoyer un SMS pour dire « Ok, je suis là ». Ce jour-là, j'envoie le SMS de tradition et il me répond « La porte est contre ». C'est fantastique. Ça, c'est le titre. « La porte est contre ». L'œuvre est entrebâillée. On est dedans et on passe dedans, on est dans l'intime. Enfin bon. Et en même temps, c'est énigmatique. La porte est contre.
Donc, oui, et en plus, c'est très bruxellois.
Et c'est très belge, exactement. Il y avait tout ça. Et donc, j'étais très fier. Je dis, voilà, mais on cherche. Mais voilà, c'est donné, il suffit de cueillir. J'en parle à Lucie, j'en parle... Et puis, tout le monde, c'est nul. Oui, excepté Marianne. Mais alors, c'était marrant. Excepté Marianne, parce qu'en fait, c'est dans son registre de titre. C'est dans son rapport à la manière de titrer les choses.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kalinsky.
Mon œuvre.
Allez voir ce qui est.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tentok, me tentententum, stélé.
Le monde invisible.
Avec entre autres Gérard Préchoff, Lucie de Kersantoine, Marianne Bernot, Harry Mandelbaum et les voix de François Scolin, John Berger, François de Guy, Hermeline Lebert, Baudon Sterling, René Kalinsky, Sarah Kalinsky et Chaim Karinsky.
J'ai de tout temps et depuis très très longtemps apprécié l'œuvre d'Harry. Et même, je signerais un chèque en blanc, il me dirait demain ou dans 10 ans, j'expose avec toi, je dirais oui, automatiquement, puisque pour moi, c'est un acquis.
Le titre est venu très vite, puis ils ont laissé reposer, et puis ils l'ont quand même décidé, ils ont trouvé que c'était le plus juste. Et je crois qu'il est juste. Il me semble vraiment correspondre à ce qui se passe dans cette exposition, à ce qui se passe dans le travail de Marianne, où il y a des choses très intimes, évidemment, et qui est quand même ouvert sur le monde, absolument dans l'œuvre de Sarah Kalinsky, et je pense dans le mien aussi. C'est un des mêmes moteurs, en tout cas, d'aller du particulier ou de l'intime au général, au monde, voilà.
Je n'ai pas envie de porter la chose sur mon dos. Je sais que c'est scandaleux de dire ça. Je ne voudrais pas faire un scandale. C'est sûr que la Shoah est une grande partie de ma vie, mais dans mon travail, me semble-t-il, il y a aussi de l'humour, une espèce de joie de vivre. Enfin, j'espère des tas de qualités autres ou une vision autre que la Shoah. Voilà.
Lecture au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, le 25 janvier à 20h. Exposition d'Harry Mendelbaum à la galerie Didier de Villiers à Bruxelles, du 3 février au 24 février. Voir l'exposition au Centre Wallonie-Bruxelles qui est située en face de Beaubourg.
Il y a une fenêtre qui n'est pas occultée. Les autres fenêtres, il y a un travail de chacun qui est agrandi à la mesure de la fenêtre. Et par la fenêtre qui n'est pas occultée, on peut déjà voir un travail de Marianne. Complètement bien.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est produit et soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Puis on voit aussi sur les côtés, peut-être déjà un aperçu d'œuvres de Sarah et certaines choses à moi. Donc, alors on rentre, on ouvre la porte, il y a le bureau, l'accueil, où il y a le titre en grand, très grand même. Sur le côté, il y a un petit panneau de remerciement pour tous ceux qui ont participé à cette exposition. Il est un peu discret. Et puis, il y a un premier panneau, texte de Gérard Préchoff, où il explicite sa vision de l'exposition, leur vision de l'exposition.
Ma première interview d'Harry était dans Point Critique, la revue juive progressiste, par rapport à des questions qui ne sont pas tellement éloignées des questions d'exposition aujourd'hui à Paris, c'est-à-dire les questions d'identité, de judaïsme et tout ça. Mais la question de l'atelier comme... espace théâtral, pas tellement Harry comme acteur dans le sens classique, mais de son goût pour une certaine théâtralisation de son lieu de travail.
Quand on fait un petit quart de tour, on voit immédiatement une toile assez grande à moi qui s'appelle Abu Ghraib. Abu Ghraib. Abu Ghraib, c'est le village de toute la prison en Irak où les soldats américains ont maltraité des soldats irakiens. Je prononce peut-être très mal le mot, Abu Ghraib. Mais...
Parce qu'effectivement, de lieu en lieu, je n'ai cessé d'être abasourdi et fasciné par ces lieux d'Harry, qui sont à la fois des lieux de vie et des lieux de travail. Et d'ailleurs, c'était repris par Boris, hein, portrait du peintre dans son atelier. C'est de nouveau la question de l'atelier. On ne peut pas détacher Harry tel qu'on le connaît, l'homme, le peintre, de son cadre, de cet espace de travail qui est en même temps un espace théâtral, dramaturgique, de mise en scène des œuvres aussi. Il y a ce côté aussi work in progress du peintre au travail.
Ensuite, il y a, on continue, on loge ce mur par la gauche, j'ai commencé par la gauche. Il y a deux peintures à moi, effectivement, que je nomme sans titre. Dans l'une, il y a le mot « Die Umwelt » et on aperçoit partie du corps d'une femme, plus exactement le sexe, et des fleurs.
Alors, qui dit théâtre dit scénographie et, me semble-t-il, vous êtes l'auteur de la question, de la progression dans l'exposition.
Lucie Duguerre-Saint-Antoine.
Encore juste avant de pénétrer dans une partie qui est réservée à Marianne, il y a une petite peinture aussi qui est d'après Courbet, d'après l'origine du monde de Courbet.
Le travail qu'on a fait en collaboration, Gérard et moi, c'était surtout de plonger dans les œuvres, d'aller vers ce qu'on aimait avant tout des trois artistes et ce qui nous parlait par rapport au thème, même s'il n'y a pas vraiment de thème à l'exposition. Et l'enjeu, ben, c'était de faire dialoguer ces trois œuvres-là, tout en respectant un espace pour chacune d'entre elles. Et donc on avait affaire là à un peintre, à une peintre, Sarah Kaliski, qui est aussi dessinatrice, mais qui s'est aussi emparée de beaucoup d'objets sur lesquels elle a peint et dessiné, et une installatrice, donc la Trois Dimensions. Donc il fallait pour les œuvres de Marianne qu'elles aient un espace à elles. Or, cette pièce était une grande pièce carrée, scandée par trois colonnes. Donc toute la scénographie a été construite en fait à partir des pièces de Marianne pour trouver, pour qu'elles aient leurs espaces, pour qu'on puisse circuler autour, pour qu'on puisse les embrasser du regard sans qu'elles soient parasitées par d'autres, par les autres œuvres, mais tout en ayant à l'esprit qu'on avait quand même envie que ces œuvres-là dialoguent malgré tout.
Et alors là, dès qu'on est là, on voit l'œuvre de Marianne. Je ne vais pas me tromper de titre, un jour comme un autre. Et on ne peut pas tourner autour de l'œuvre. On peut la voir frontalement, on peut la voir sur le côté, mais je trouve que c'est très bien.
Comme vient de le dire Lucie, la démarche a été de considérer chaque œuvre pour elle-même et par la suite de les mettre en relation. Donc ce n'est pas chercher à illustrer un thème a priori, mais fatalement... de ces trois artistes qui sont issus de la même génération, qui ont des repères historiques communs, c'est-à-dire la guerre, la Shoah, l'extermination et le fait d'y avoir survécu par l'enfance. Du coup, il y a fatalement des choses communes. Je trouve que c'est une exposition qui est merveilleuse pour initier à l'art. Voilà. Parce qu'à partir de choses communes, on peut dire aux spectateurs... Voilà comment chacun répond à sa manière, de manière irréductible, singulière, à des questions communes. Comment chacun s'y prend ?
C'est pas la pièce que je préfère, mais peut-être qu'elle est plus facile à décrire. C'est « Est-ce qu'il me reconnaîtra ?» C'est un fauteuil à quatre pieds, mais là, il en manque un. Et ce fauteuil est complètement démantibulé. Et c'est un fauteuil arrondi. Je crois que ça porte un nom, ce genre de fauteuil. Un fauteuil arrondi qui vient à bas le dos et qui est fait dans les rouges avec des fleurs, comme ça. C'est un vieux fauteuil clouté. Le tissu est clouté. Il y a des accoudoirs en bois. Et à l'intérieur, il y a un petit coussin qui est complètement démoli. Enfin, il a l'air vraiment un fauteuil acheté à la poubelle. Enfin, vraiment inutilisable, avec un pied en moins. Donc, on se demande par miracle comment il tient. Et le titre, est-ce qu'il me reconnaîtra ? J'utilise évidemment des objets. Ce n'est pas les objets, c'est pour moi des personnes.
C'est un fauteuil rouge. C'est un fauteuil assez bas, qui a une assise assez basse. Il est rouge, mais un peu fleuri. Il est fait de rembourrage et il est très abîmé. Il lui manque un pied. Le rembourrage est... Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de l'équilibre, parce qu'évidemment, un fauteuil sur trois pieds, l'équilibre est forcément fragile. Et donc, ce rembourrage est repoussé dans le fond gauche du fauteuil. Et voilà, effectivement, le titre est « Est-ce qu'il me reconnaîtra ?»
Ce n'est pas une vieille dame qui est assise sur un fauteuil. Le fauteuil lui-même, c'est la vieille dame. Et je trouve que c'est toujours la clé que je donne pour... la lecture de mon œuvre, parce que je trouve que le spectateur a droit à sa propre vision, mais ça c'est une lecture importante, parce que le fauteuil est la personne. Et donc là, c'est une dame très très âgée, vraiment très vieille, et qui a rendez-vous cet après-midi-là avec un ancien amant, mais d'il y a 40 ans, peut-être 50 ans. Et c'est pour ça qu'elle se pose la question... Est-ce qu'il me reconnaîtra ? Parce que, évidemment, en 40-50 ans, elle est complètement ravagée, complètement détruite. Elle a encore toute son âme et peut-être toute sa jeunesse en elle. Mais physiquement, elle est vraiment très atteinte, etc. Et c'est pour ça cette question.
Une pièce qui date de 2013. Le titre est « Est-ce qu'il me reconnaîtra ?» C'est un fauteuil en tissu, du rembourrage et du bois. Et le commentaire est « Par moments, je suis consciente du temps qui passe, qu'il faudrait peut-être tout le temps avoir une glace devant soi. Malheureusement, les choses se dégradent. Pour ceux qui pensent que la vieillesse apporte la sagesse, ils se plantent. Les idées, les principes évoluent très lentement, alors que le corps physique change à une plus grande allure. Peut-être que le corps est quelque chose d'extérieur, soumis aux intempéries, et que l'âme est intérieure, préservée. » Le corps a souvenance du moment, il a l'empreinte des années, mais l'âme a l'âge qu'elle veut.
Il me semble avoir vu cette pièce comme une autre avec une poussette, c'est possible ?
Vous avez vu, cette pièce a été exposée au Musée juif de Bruxelles, mais pas la poussette. C'était Un jour comme un autre, qui est un rouleau de carton ondulé, très impressionnant, qui se déroule sur quelques mètres, sur 4 mètres environ, avec des moules de chaussures en bois. Et ces moules de chaussures en bois sont des moules de chaussures de femmes, d'enfants et d'hommes. Et donc, c'est des personnages qui vont et qui sont poussés et, enfin, contre leur volonté. Je ne sais pas, il y a un mot en français que, qui sont mais littéralement poussés, mais avec une violence, vers leur propre destruction. Parce qu'au bout du rouleau, ces soi-disant empreintes de chaussures sont écrasées. C'est comme un rouleau compresseur qui inévitablement écrase la vie. Parce que ces chaussures, enfin ces moules de chaussures, sont des personnes. C'est des hommes, des femmes et des enfants.
Il y a Un jour comme les autres, qui date de 2012, qui est constitué de cartons ondulés, de moules à chaussures de cordonnerie en bois. Le commentaire est le suivant. Recette du quotidien, amant, alcool, drogue, à défaut, production artistique. Je vis l'ennui quand je ne produis pas d'œuvre. La question est, peut-on savoir ce qui est au bout du chemin? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Faut-il se jeter par la fenêtre du 10e étage? Ma maison n'est pas assez haute. Ah, tiens, tu veux de la glace à la framboise.
Évidemment, c'est tellement direct comme image que c'est sûr, c'est par rapport à la Shoah ou par rapport à toutes les persécutions du monde qui tuent. En sculpture, on peut faire des choses, mais on ne peut pas les dire, on ne peut pas les écrire.
Je suis chez vous et nous avions convenu peut-être que je puisse visiter votre atelier.
Oui, mais c'est des ateliers un peu bizarres. C'est des ateliers qui se mélangent avec une cuisine, c'est des ateliers qui se mélangent avec une salle de bain. Donc c'est des espaces dans une maison, ouais, dans une grande maison bourgeoise, mais c'est quand même des espaces qui ne ressemblent pas nécessairement à des ateliers, mais oui, évidemment, vous pouvez venir voir, je vais vous accompagner.
Je vous suis.
C'est une mise en scène de sa vie. Le vêtement est là, puis après, le vêtement du tissu social est là, le vêtement de l'architecture sociale, du moyen de transport est là, un morceau de voiture, un morceau de chaise, un morceau de banc, de table, de lit.
Ici c'est la cuisine et ici c'est la cuisine. Je suis en train de faire une pièce, je vais faire.
Et progressivement, on passe de l'anecdotique au sculptural en somme. Mais la vie privée n'est jamais loin.
L'enfance, elle naît 1934, elle a 6 ans en 1940.
Oui, elle a 10 ans en 44, effectivement. Elle ne s'est jamais très longtemps étendue sur le sujet. Il n'y a pas longtemps qu'elle a osé le dire et qu'elle l'a dit. Presque parce qu'on l'a forcée à le dire ou qu'on lui a fait comprendre que c'était ça ce qu'elle disait aussi. Bon, son autobiographie, bien entendu. La famille qui a disparu. Bien entendu. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, au-delà de ça. C'est de la sculpture et il faut la lire aussi comme étant de la sculpture. Du vertical, beaucoup d'horizontal. Beaucoup de vertical qui est presque en train de tomber. Beaucoup de coucher qui est presque en train d'essayer de se relever. C'est tout ça, Marianne Bernhout.
Beaucoup d'objets dans cette pièce.
Oui, il y a beaucoup d'objets partout ici, un peu trop, quoi. C'est encombrant. C'est encombré et encombrant.
Tout comme vous, elle a un frère jumeau.
Oui, elle a un frère jumeau, effectivement, qu'elle a mis longtemps à retrouver d'ailleurs, après-guerre, parce que son frère jumeau avait été recueilli par une famille ici à Bruxelles et qui lui avait donné son nom. Donc son frère jumeau porte non pas seulement un autre prénom, mais aussi un autre nom. Et son frère jumeau est tout aussi extraordinaire et aussi unique qu'elle, mais pas en sculpture. Il a un autre trajet. Mais ils sont très particuliers tous les deux, très attachants tous les deux.
Quand vous allez dans les brocantes et que vous regardez les objets, déjà vous avez l'intuition de ce qu'ils vont devenir ?
Non, pas du tout, pas du tout. J'en prends ceux qui me disent quelque chose, quoi, enfin, non. C'est pour ça qu'il y a une telle accumulation et disons que c'est un peu exagéré parce que la maison n'est pas extensible et je suis un peu encombrée. Je n'ai déjà pas tellement d'ordre personnellement, d'une certaine façon. Enfin, c'est un peu, c'est en désordre, c'est pas un atelier très clean. Mais...
Il y a l'anecdotique, il y a le tragique, mais il y a aussi ce qui est là, dans l'espace.
Et je reviens au théâtre. Vous n'avez pas exposé dans les théâtres, dans les années 80 ?
Oui, il y a eu...
Festival du théâtre de Bruxelles. Il y avait une pièce de vous.
Il y avait Bruno Schulz.
Beaucoup de silence aussi, c'est des œuvres qui appellent le silence. Donc je pense que dans le parcours, ça se ressent.
Et au fait, j'ai récupéré des anciens radiateurs et je les ai mis comme fiches.
Baudouin Sterling, vous êtes-vous déjà rendu dans l'atelier de l'artiste ?
À de nombreuses fois, je pratique Marianne Béronaut. Depuis très longtemps, j'ai connu trois ou quatre endroits où elle a vécu. Mais elle avait son atelier dans la gare.
Maintenant, pour le moment, on fait des caisses parce qu'on met tout sous archives et feuilles, enfin, fiches informatiques, quoi.
Ah oui.
Je fais ça depuis à peu près un an et demi avec un jeune artiste qui a une trentaine d'années, qui est artiste. Moi, je fais le montage. On fait les photos ici, les photos de travail, quoi. Et puis, lui fait les caisses.
Hein, c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard, tout le monde le sait. Et il y a donc eu, évidemment, un flot d'œuvres qu'il a fallu qu'elle dépose là, je dirais, dans cette gare qui était son espèce de ballast qu'il a bien fallu... lancée et rangée quelque part, enfin, elle l'a fait au moment où elle était là.
Marianne Béronaut.
Il n'y a pas de circulation obligée, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de récit. On commence par un point A, on va à un point B. Je pense qu'on peut prendre cette exposition dans tous les sens, par où on veut.
Et une des grandes intellectuelles belges, disparue il y a quelques années, Françoise Colin.
Ce tragique du rapport aux objets, elle ne l'a jamais négocié sur le plan, comment dire, que je pourrais dire, plus singulier, plus sentimental, plus personnel, dans son rapport à la tragédie de la guerre et du destin de sa famille. Elle n'y a jamais fait allusion, et c'est en ça, il me semble qu'elle est une artiste au sens tout à fait plein du terme, c'est qu'elle disait cela, mais elle le disait pas comme une traduction.
C'est la première à avoir écrit sur Blanchot, il y a ça très longtemps.
Elle le disait comme quelque chose qui était véritablement dans son corps et dans son geste, si vous voulez. Ce n'était pas en mémoire de ceux qui ont péri, mais c'était, ou qui ont été fracassés, dont les corps ont été dispersés, mais c'était une... prise en charge singulière et pas du tout référentielle.
Et aussi,
je pensais à Françoise Colin.
Oui, Françoise Colin, c'est une grande dame qui malheureusement est décédée et qui a écrit les premiers articles, presque, pas tout à fait, mais des articles sur mon travail avec énormément de justesse, disons. Voilà. C'est une grande dame, c'est sûr.
Donc vous étiez aussi sensible comme Marthe Wery le fut au mouvement féministe.
Oui, oui, bien sûr. Disons que c'est sûr. Mais les premières poubelles qui ont été montrées. La première journée de femmes, je les avais mises, comment ça s'appelle ? Au passage 44. C'est là que j'ai mis. Et puis là, la Maison des Femmes m'a invité Violaine de Villers, Nadine Plateau, évidemment, qui d'ailleurs va faire bientôt. On va faire une correspondance à deux dans une édition, comment il s'appelle, Conversation à deux, Tandem.
Gabriel Beljohn.
Oui, c'est ça. Et nous sommes en train, nous avons commencé d'ailleurs à Paris, la conversation, Nadine Plateau, Violaine de Villers. Et évidemment, je suis très très portée par le mouvement des femmes, tout en n'étant pas du tout active. Je veux dire que, à ma grande honte, je ne suis active dans aucun mouvement politique, alors peut-être que je devrais l'être, mais je sais que je ne le suis pas.
C'est assez intéressant de voir comment la concomitance entre François Scola, mais aussi il y avait Jacqueline Aubenas, il y avait Nadine Plateau, il y avait une série de personnalités comme ça, toutes plus brillantes les unes que les autres, qui se sont un peu emparées du travail de Marine Bernot, comme un étendard, en fait, comme une figure artistique du mouvement féministe.
Harry Mendenbaum, étiez-vous témoin de ces années-là ou...
Mais non, je suis passé à travers. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne comprends pas. J'étais, sinon témoin, comme on dit, des vieux communistes, compagnons de route, certainement, oui. Voilà. Mais je ne savais pas que ce que tu racontes là, je ne savais pas. C'est bien. D'où la question que j'avais posée à propos du théâtre, je la comprends un peu mieux maintenant.
Qui a été joué avec, par une actrice, Louveau, Brigitte Louveau, qui était dirigée en solo et qui était dirigée par un directeur polonais, et c'était une pièce d'après Schulz, et c'était incroyable. C'est Brigitte qui était la seule personne vivante, mais elle prenait les poupées poubelles pas du tout comme décor, mais comme personne intégrante du spectacle. Et c'est très très bizarre, parce qu'elle m'avait demandé l'autorisation, évidemment, et moi j'étais très réticente en disant que c'est des personnages immobiles, qu'ils étaient statiques, qu'ils n'étaient pas du tout dans le mouvement. Et elle en a fait quelque chose de remarquable, je veux dire.
Wir Schwestern freilichen, wir schönen, zugleich vor Langgesicht.
Hermeline Lebert, est-ce que vous pourriez lire ceci?
Les objets sont des morceaux de mémoire. Les déplacer, les détourner, c'est peut-être leur donner la chance d'une vie nouvelle. Et pour nous, la possibilité d'un autre regard. Une belle citation.
So gleich kein Ei dem anderen, kein Ei dem Monde, kein Stern dem anderen Licht, kein Stern dem anderen Licht.
Donc une pièce qui s'appelle Escarpins sur Balatum. On voit une paire de chaussures à talons noirs, peintes en rouge à l'intérieur. Et on voit différents lambeaux de Balatum, de tissu, de parquet en vinyle.
Et là-bas, des chaises cassées. Des chaises d'enfants. Hein.
Voilà, des chaises d'enfants.
C'est quoi ? C'est des petits tabourets ? C'est aussi très métal, très dur.
Oui, donc deux tabourets.
François de Gouy.
Identiques. Quasi identiques, hein, on pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez, et ils sont placés au-dessus d'une photographie, hein, une photographie de deux enfants, deux jumeaux.
Et Il a des sacs verts en papier.
Sac en papier craft, donc une rangée de sacs. Et la plupart sont debout, certains sont couchés.
Et puis il y a la rencontre, qui date de 2013 également, qui est faite de 3 trottinettes en bois. Et le commentaire dit simplement « Quel bonheur de se revoir ».
À l'entrée, un lit avec du verre et avec des algues. Ce sont des vraies algues séchées qui sont mises. Hein. Donc encore une fois, très très simple. Mais bon, je préfère qu'on en parle tout à l'heure.
D'accord. D'accord. Je vais continuer la visite. Ouais. Merci. François de...
De Gouy.
D-E...
G-O-U-Y-S.
Des objets qu'elle a récupérés, qu'elle a agencés, qui ressemblent effectivement à une scène de théâtre dans laquelle on intervient en tant que spectateur.
Et une autre fois, dans un spectacle, j'ai mis une poupée poubelle comme spectateur, mais je ne me rappelle plus où.
Cette clé qu'elle donne de se dire que tous les objets qu'elle met en relation sont des personnages, il y a du temps dont on a besoin pour identifier et se raconter une histoire chaque fois très personnelle et très subjective, mais qui doit, j'imagine, rejoindre un petit peu ce qu'elle a voulu mettre en relation et dire. Or, celle-ci, elle est très... Elle se donne assez directement. Elle est extrêmement littérale. Et donc, elle ramène les choses à du récit pur, hein, je trouve.
Ces installations sont des personnages. Elle a tout à fait raison. Il suffit de s'arrêter un peu et on voit surgir, que ce soit les enfants, les personnes. Enfin, ça se met tout à coup à vivre et ce n'est pas simplement du brol récupéré et accumulé et qui ferait récit par adjonction, par agencement, par combinaison. Et alors il y a cette phrase, je trouve qu'elle est remarquable à l'occasion d'une expo à l'ancien centre Nicolas de Staël à Braine-l'Alleud. Thierry Dedu avait écrit un très beau texte qui s'appelait Sculpture. Et il y a cet extrait. On peut penser que tout le travail de Marianne Berenaut est alimenté par un goût nostalgique pour la brocante, les fonds de grenier, les objets patinés et meurtris par l'usage. On devrait se détourner d'une telle pensée avec effroi, car elle est obscène. Elle ferait de la Shoah un marché aux puces. Je trouve que c'est une synthèse magnifique, fulgurante, par rapport au travail de Marianne. Et alors, effectivement, ça risque, comme le relève Lucie, l'extrême lisibilité du travail de Marianne risque aussi l'espèce de tautologie par rapport au réel. Mais moi, en même temps, ce risque-là, elle le prend, elle le négocie bien, disons. C'est un virage bien négocié dans son œuvre. Et c'est ça que j'apprécie par-dessus tout chez Marianne, c'est sa lisibilité.
Et enfin, il y a le départ, hein, qui date de 1982, enfin qui est une date approximative, dit Marianne elle-même, qui est constituée d'un landau, d'une échelle, d'une photo encadrée et d'une affiche. Et c'est un commentaire en fait qu'elle n'avait pas écrit lors de la réalisation de la pièce, mais en préparant l'exposition, je lui avais demandé s'il en existait un, si elle en avait la trace, et elle n'en avait pas écrit, et donc elle m'a envoyé ceci. Si je dois produire un commentaire 35 ans après la création, il n'aura plus la force de la jeunesse. Je vais parler plus en tant que spectatrice. Mon interprétation a perdu de sa fraîcheur. Mes impressions ont été polies, vernies, violentées. Si je regarde cette œuvre, c'est effectivement quelque chose de tragique.
En fait, Lucie, un jour, m'a demandé, tiens, tu veux pas me... Comme vous êtes là, vous êtes pareil, mais d'une manière moins protocolaire. Tu ne veux pas me dire ce que tu penses de l'œuvre de... Et moi, j'ai commencé à parler, poser de temps en temps une question. Je ne sais pas, on l'entend, Lucie qui pose des questions aussi. Je
non,
ne sais plus.
Il me semble, ce que j'ai entendu, je n'ai pas entendu l'entièreté, mais ce que j'ai entendu, c'est très impressionnant. Parce que la voix d'Arié est très très basse, il faut vraiment écouter et être attentif. Et le fait que ce soit bas, ça porte à l'attention. on a envie d'entendre, d'écouter. Et là, je n'ai entendu que ta voix. Je n'ai pas entendu la voix de
Lucie. Parce qu'elle m'a posé des questions, sans doute qu'elle a nettoyé. Et voilà, et c'est devenu cette voix qui... Enfin, je ne sais pas comment dire, oui, cette voix qui est parlée. Mais je ne savais pas qu'elle le faisait. Je l'ai fait comme ça, et puis voilà, c'est devenu...
Il y a juste en fond la voix d'Arié, puisqu'il y a un endroit dans l'exposition qui est consacré à une interview que j'ai faite d'Arié, et qui parle un petit peu, en fait, de la genèse de l'exposition, puisqu'effectivement, c'est une exposition qui est née... du désir, avant tout, d'Arié de réunir Marianne et Sarah autour de lui.
Et quand on rentre dans cette pièce, il y a une parole qu'elle a mise, elle nous explique. J'explique pourquoi j'aime l'une et j'aime l'autre. Et puis, il y a à nouveau une petite pièce qui est ce que Lucie a appelé la chambre d'écoute, où il y a une toile à moi, c'est plutôt un dessin avec une toile, qui a servi d'invitation, où je suis parti d'une photo de Jacques Préchoff, qu'il a faite au Centre culturel Jacques Franck, où on voit Sarah, Marianne et moi.
Les présences que tu évoques à travers l'espace de cette lumière, ou de cette luminosité plutôt que lumière, et espace, mais ce n'est pas un espace régulier.
Figurez-vous que j'ai été à la soirée d'hommage à la Maison de la Poésie dédiée à John Berger, où il y avait, bon, c'était une soirée très chaleureuse, mais assez interminable, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui le connaissaient, qui l'appréciaient, qui prenait la parole, et c'était sous la houlette de Nancy Houston.
C'est un espace qui change sa peau. Peut-être pas chaque minute, mais dans les endroits différents sur l'étoile. Je suis très frappé par ça, parce que je crois que je n'ai jamais vu quelque chose semblable. Et en même temps, la présence des figures, la présence de, pas de la vie, mais de les vies plurielles, qui portent souvent les choses graves ou même tragiques.
Mais voilà, par rapport à Arié, il a écrit un superbe texte, je me souviens, sur la sanguine, sur la blessure, sur la cicatrice.
Il s'appelle
Béant. Béant, voilà, pour une de ses expos.
Peut-être que c'est pour ça que je suis sculpteur. Je ne parviens pas à traduire en mots ce que je ressens. Ou bien les mots sont mal adaptés, ou bien moi je suis mal adapté. Je ne sais pas. Mais je sais que ça m'a fait une impression très très forte. Et particulièrement cette toile-là, dont Arié n'a pas parlé, je ne sais pas pourquoi. Et aussi la vitrine de Sarah. Mais moi, le travail de Sarah, c'était une découverte. Pour moi, c'est... Vous voyez, pour la première fois.
Mais il n'y a pas de haine, il y a un grand peuple. Et je voyais des gens mystérieux à Varsovie. Des hommes qui m'ont fait penser à mon père, la fameuse photo, avec des yeux comme de verre, comme ça, vert. Et des manches trop courtes, et toujours un livre intéressant et mystérieux sous les bras. Ils avaient, en tous les cas, à ce moment-là, il n'y avait pas encore cette approche qu'il y aura plus tard, maintenant, d'un Occident, puisque même l'Allemagne rêve du mur. Hein. Les Allemands de l'Est voudraient le mur pour retrouver, évidemment, les dividendes. Quand on jette l'enfant et le bain, on fait l'économie du marxisme total. C'est des ordures, c'est des moins que rien. Alors oui, les femmes étaient en congé lorsqu'elles attendaient un enfant. Il n'y avait pas de difficulté. Pourquoi devrait-il en avoir de trouver une façon d'exister? Pourquoi un nez doit être jeté dans la mare au diable et vivre selon un concept...
Sarah Kalinsky.
Mercantile.
C'est-à-dire que j'ai eu conscience de la mort, de la menace, à l'âge de 6 ans.
René Kalinsky.
C'est que mes parents... et tous les adultes que je rencontrais ne ressentaient pas cette menace de la même manière. C'est-à-dire qu'il y avait les persécutions, mais ils ne parlaient pas de la mort. Ils imaginaient qu'on déportait les Juifs et que c'était naturellement une catastrophe, mais au bout, ils n'arrivaient pas à entrevoir ou à ressentir l'inéluctable, la faim, l'anéantissement. Et moi, en tant qu'enfant, j'étais absolument persuadé que c'était la faim et que c'était la mort. Et quand mon père a été arrêté, pour moi, il était mort.
La voix qu'on entend est celle du dramaturge.
Et je n'ai jamais rien espéré.
On poursuit. C'est pas une pièce, c'est donc un endroit qui a été créé.
Ce sentiment explique la fascination qui est la mienne pour le tragique. Enfin, je parle toujours du passé. Et c'est pourquoi mon théâtre est toujours en prise sur l'histoire.
La plasticienne qui est Sarah Kalifsky.
Même quand on est médecin, il faudrait avoir des médecins ou avoir le père médecin pour ouvrir un cabinet de Caligari, enfin je ne sais pas quoi. Je veux dire qu'être jeté dans la vie n'est pas une aptitude pour tout être humain. Je trouverais que c'est un écueil d'office pour un enfant qui naît dans une famille, quelle qu'elle soit, défavorisée ou favorisée. C'est terrifiant. Je dirais que les... Comment on les appelle en français ? De temps de la Grèce antique, on enlevait les enfants à l'âge de 6 ans. Les Crétois ou... Non, je vais demander à Jim, parce que depuis que j'ai été opéré. Jim, qui on enlevait à l'âge de 7 ans en Grèce pour les élever par l'État ?
Vous avez bien connu Sarah Kalinsky, Harry Mandelbaum ?
Je l'ai connu. Dire que je l'ai bien connu, ce serait un peu présomptueux. Je l'ai connu tout à fait au début, quand nous avons commencé à peindre, puis on s'est perdu de vue, mais elle a été habitée à Paris, je ne l'ai plus beaucoup vue, et puis on s'est revus.
Je veux dire que la Belgique a quelque chose de prégnant, même si je ne retrouve pas tout à fait dans la place de Brouckère sa mystérieuse, divine beauté.
Non, pas la dernière fois, mais presque la dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'hôpital, à Paris.
J'ai pu interviewer assez longuement Sarah Kalifsky chez elle quand elle habitait à Bruxelles. On va entendre sa voix.
Et je trouve que tout a été trafiqué. Je trouve qu'on détruit, par exemple, près de la gare de Midi, toute l'ancienne Anderlecht. Je ne suis pas nostalgique, j'avais que 2 ans. Mais il n'empêche que c'était peut-être un aide-mémoire. Il y a quand même eu des gens qui ont vécu une tragédie. Alors peut-être que les monuments ne remplacent pas les lieux. Je trouve que quand j'ai exposé au musée de Lodz, j'ai été frappée que c'est une ville ravalée. Et baroque, elle avait gardé son identité, mais alors c'était très cruel pour moi. J'ai dit oui, quand j'ai accepté d'exposer là, je n'avais pas ces idées d'a priori de haine et de bêtise contre la Pologne. Et j'ai cherché comme une aveugle dans la nuit ce qu'on appelle les gens d'origine juive, qui avaient 1000 ans d'histoire via le peuple polonais. Et lorsque j'ai dormi à l'hôtel polonien, je l'ai dit en écrit à moi, je devais dormir chez moi. J'ai senti une affinité prodigieuse avec les Polonais. Et les femmes, en 92, avaient encore des toutes vieilles femmes près de la gare de Lodz, près de l'hôtel où nous étions. Il y avait des doubles chaînes, tellement ils étaient avides d'avoir quoi ? Une pizza ? D'écouter Elvis Presley, par exemple. Donc moi, j'ai encore connu les gâteaux qu'on fait, même pour une exposition, que tout le monde apporte, avec cette extraordinaire vitalité tendre de cette âme noble que j'ai trouvé chez les Polonais très présente. Par exemple, à Varsovie, j'étais près de Sachsenkuten. C'est un parc que ma mère chantait dans certaines chansons et qu'elle a joué à la corde petite. Varsovie est refaite. J'ai vu des choses ignobles, c'est-à-dire on ne met pas les Juifs, on met des femmes juives dans des téléfilms là qu'on montre pour les touristes. Puis j'étais dans le fameux ghetto et j'ai dû partir parce que je n'ai pas pu voir ça. Donc j'ai effectivement vu le 4, on l'a vécu en grande partie sa jeunesse, Volova, et j'ai vu des pains de sucre. Je voulais parler de choses qui me tiennent à cœur, du temps que j'y pense. Les jeunesses dites communistes.
La vision des deux commissaires n'était pas de dire il y a autant pour là, puis autant. Ils ont fait une réponse d'une chose à l'autre. Je pense que ça fonctionne vraiment très bien, cette réponse. Donc, si on va sur la droite, il y a une série de dessins de Sarah Kalifsky. Et là aussi, je ne suis pas les commissaires pour en parler, mais ils ont fait un choix. ils ont fait un choix à partir de ce qu'ils ont trouvé dans l'atelier que le fils de Sarah Kalinsky, Jonathan Zakaï, a loué à Bruxelles pour entreposer les œuvres qu'ils avaient. Ils ont découvert là un nombre de dessins incroyables.
Elle dessine ou écrit, d'ailleurs, sur des feuilles d'arbres, enfin, mais énormes, et ça me semble d'origine tropicale, ces feuilles, des morceaux de sucre, enfin, une infinie d'objets quotidiens qu'elle a trouvés, etc. Et c'est très très fort comme impression. C'est très très bien exposé aussi. Hein. Et aussi, ça m'a très fort impressionné, cette petite chambre où il y a la voix d'Arié qu'on écoute.
Il y a une série de dessins superbes sur... sur le désir, sur l'amour, sur la femme, sur... très très beau. Très 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 beau. Il y en a un grand, superbe.
J'étais un enfant, j'ai chanté l'hymne de Mao Tse-Tung et je l'ai chanté à l'hôpital Bondé à une Chinoise qui travaillait. Tung Fang Kung Tai Wan Che Chul Kuo Chul Ya Kuo Ma Wo Tse-Tung Ta Wei Jen, etc. Elle a été bouleversée et j'étais une enfant très sage dès lors qu'on apprenait à partager, mais je n'eusse pas eu l'idée de ne pas partager.
On rentre sur la droite. Alors là, on rentre vraiment dans une pièce qui devient une espèce de, je sais pas le mot, peut-être pas tout à fait juste sanctuaire, où il y a le départ. C'est juste, le titre est exact, le départ. Cette poussette d'enfant sur les rails avec une affiche d'arrivée, de départ de train. Et ça prend toute la pièce là sur le, qui est très 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 belle, très sobre et c'est. Il ne faut pas en lire plus, c'est magnifique. J'allais dire que c'est presque religieux, mais ce n'est pas. Il y a quelque chose de sacré, mais pas de religieux. On ressort, il y a une vitrine qui a été créée dans un des murs. Une vitrine avec tous les objets que Gérard et Lucie ont trouvés. Dans l'atelier que Jonathan a loué, il y a du tout. Il y a des peintures dans des pelures d'avocats vidées, des petites peintures dans des boîtes à sardines, un dessin sur un pied, oui, c'est des éventails. C'est extraordinaire, ce foisonnement dans l'œuvre de Sarah et ce qu'on voit dans cette vitrine, des cartons de bière sur lesquels il dessine. Vraiment, c'est étonnant. Si on était encore un peu plus attentif, dans le coin, entre la vitrine et la bâche, il y a une autre œuvre de Marianne qui s'appelle La Rencontre. Mais peut-être que Marianne la décrira.
Alors on a vraiment trois univers. Qui sont, bon, ils ont des choses en commun d'un point de vue plastique, puisque c'est trois univers quand même figuratifs, qui sont du côté du récit. Ça, c'est important. Même si, et justement, ça, c'est la caractéristique d'Arié, Yashi Arié, il flirte avec l'abstraction. Il est tout proche de basculer, puisqu'il questionne justement la question du récit, hein, puisque c'est quelqu'un de strictement contemporain. Donc, il n'est pas du tout dans l'évidence illustrative de ceci, cela. Tout est chaque fois questionné, que ce soit sur les portraits. Mais par ailleurs, ils ont en commun la question de l'enfance, comme le dit Lucie, la question de la famille, la question des groupes, la question de l'histoire et du politique. Et donc ça se voit dans chacune des œuvres, mais chaque fois différemment. Quand on voit la personnalité de Sarah qui est...
La sexualité.
L'intimité des corps... mais comment chacun s'en empare et chez Sarah comment il y a cette espèce d'énergie irrépressible où elle s'empare de tout support pour faire feu de tout bois, on pourrait dire, d'une certaine façon.
Je crois que j'ai fait un tour de tout, non?
Oui, absolument.
Non, j'ai oublié une chose très importante quand même, parce que c'est très beau la manière dont... J'ai oublié qu'à chaque... à des moments très précis, bien sûr, il y a des... des textes qui sont la biographie de chacun.
On s'est dit, ce n'est pas une rétrospective, ce n'est pas une compilation non plus, ce n'est pas une anthologie. C'est, on va prendre pour chacun quelque chose de cohérent, de radicalement cohérent. Donc, c'est-à-dire pour Sarah, tout ce qui est dessin. Donc on a éliminé la peinture. Pour Arié, les œuvres quand même autour de 2000, disons, les œuvres relativement récentes. Hein, puisque Arié, ça, à la fois, ça reste pareil, mais ça a quand même beaucoup bougé. La question de la disparition, la question de l'effacement, tout ça apparaît de plus en plus fort.
Des biographies, donc il y a, en premier lieu, il y a le texte de Gérard, et puis il y a les biographies de Marianne, de Sarah et la mienne, que Lucie a écrites.
Au centre Wallonie-Bruxelles à Paris, jusqu'au 4 février, L'intime et le monde. Marianne Bernot, Sarah Kalinsky, Harry Mandelbaum. Avec entre autres Gérard Préchoff, Lucie de Kersantoine, Marianne Bernot, Harry Mandelbaum et les voix de François Scollin, John Berger, François de Gouy, Hermeline Lebert, Baudon Sterling, René Kalinsky, Sarah Kalinsky et Chaim Karinsky. Lecture au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris le 25 janvier à 20h. Exposition d'Harry Mandelbaum à la galerie Didier de Villiers à Bruxelles du 3 février au 24 février. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est produit et soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Il y a un dessinateur chroniqueur fou d'histoire qui est Raïm Dijim Kalinsky.
Je crois que bon gré mal gré, la Belgique tiendra.
Wir schwesten freilich schön. Zugleich voll Angesicht, zugleich kein Neid im anderen, kein Neid im Munde, kein Stände im anderen Licht, kein Stände im anderen Licht. Thank you. Sarah Kalisky.